Radio Okapi.
À la présentation, Blaise Shindani Kambala, mais d'abord les titres de ce journal. La RDC insiste que Goma reste sous occupation illégale de l'AFC M23 avec le soutien du Rwanda, entraînant des graves violations des droits humains contre les civils. Dans ces contextes, toute annonce de nomination consulaire à Goma est inappropriée et ne peut être considérée sans l'aval des autorités congolaises. Rien que pour le mois de juillet, les recettes douanières de la DGDA Nord-Kivu ont dépassé les assignations établies par la direction générale de cette régie financière. Les cités frontalières de Kasindi et Nobili, ainsi que les villes de Beni et Butembo sont les entités qui marquent les points dans la mobilisation des recettes. Notre invité est le coordonnateur national de Cornerstone Development Africa CDA. Emmanuel Baraka nous parle du projet d'encadrement et d'octroi des bourses d'études aux jeunes diplômés d'État. Mesdames et messieurs, voilà tout pour les titres. D'abord, cette information qui nous est parvenue il y a peu. Un aéronef en provenance de Lubutu s'est écrasé hier à environ 34 km de Kisangani. L'appareil est complètement endommagé. Un officier de IFA RDC, son épouse et son garde du corps ont péri dans cet accident, selon des sources militaires. Une personne aurait survécu sur les 7 passagers à bord. Cependant, les circonstances de ce drame ne sont pas encore connues. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. La RDC rappelle que toute nomination consulaire sur son territoire, y compris à Goma, ville du Nord qui vaut sous occupation de l'AFC M23, doit obtenir l'agrément préalable et l'exequature du ministère des Affaires étrangères. Dans un communiqué publié ce samedi 16 août 2025, le ministère insiste sur le respect des procédures diplomatiques et souligne que toute annonce publique non autorisée est inappropriée. Des détails avec Martial Papimukeba.
Cette mise au point fait suite à des informations publiées par la présidence kényane concernant la nomination des consuls généraux pour Goma au Nord Kivu. La RDC rappelle que conformément au droit international et à la Convention de Vienne sur les relations consulaires, toute désignation consulaire doit passer par les canaux diplomatiques officiels et être validée par les autorités congolaises. La RDC souligne que Goma restait sous occupation illégale de l'AFC M23 avec les soutiens du Rwanda, entraînant des graves violations des droits humains contre les civils, comme l'ont documenté les groupes d'experts de l'ONU et les hauts commissariats aux droits de l'homme. Dans ce contexte, toute annonce des nominations consulaires à Goma est inappropriée et ne peut être considérée sans l'aval des autorités congolaises, insiste le ministère des Affaires étrangères. Le gouvernement congolais appelle à la prudence dans la communication publique pour éviter incompréhension, spéculation ou apparence de légitimation de l'occupation illégale. La RDC réaffirme sa souveraineté et son attachement à des relations bilatérales constructives avec le Kenya et à la coopération régionale au sein de la communauté de l'Afrique de l'Est. Beni, Martial Papimukeba, Radio Okapi.
Vers une génération des jeunes bâtisseurs de paix en République démocratique du Congo. C'est le thème d'une conférence débat tenue ce samedi à Kinshasa, organisée par le mouvement citoyen éclairé MSE en sigle. Cette rencontre a réuni des centaines de jeunes, des leaders d'opinion et des personnalités du pays. Objectif, sensibiliser la jeunesse sur sa responsabilité ou son rôle dans la quête de la paix durable et le développement de la RDC. Enoch Katumbi était sur place, il nous en parle.
Devant un auditoire rempli d'artistes, des sportifs et de nombreux autres jeunes et acteurs sociaux du pays, les deux orateurs, à savoir l'ancienne ministre de la Culture et Art, Kati Furaya, et le président du mouvement citoyen éclairé, Hugues Boulay, se sont appesantis sur l'éveil patriotique des jeunes pendant cette période de guerre dans la partie orientale du pays. Ils ont également invité les jeunes à l'autonomisation et à œuvrer pour le développement du pays. Hugues Boulay revient sur les bien fondés de cette activité.
Comme vous le savez, notre pays est en guerre, mais qu'il y a des processus pour que la paix soit
rétabli en RDC. Et dans une population de 100 millions d'habitants, 90 ou 70% de cette population est jeune. C'est pour ça qu'il faut que les jeunes soient en première classe, en premier front, au milieu, au centre de cette notion de paix, de bâtir la paix en République démocratique du Congo.
Des participants interrogés se disent satisfaits, comme nous l'a dit Christelle Mwaka.
Ce que j'ai retenu de cette conférence, c'est ce que j'en prenais sur la mentalité. Sur la mentalité qui est un peu de changement de mentalité. Mais cette mentalité-là que je ne peux pas arriver là parce que je n'ai pas ces capacités-là. Nous devons supprimer cette mentalité-là et nous devons tous mettre en tête que nous sommes capables de réaliser cela et d'atteindre nos objectifs.
Notons que cette activité rentre dans le cadre de la campagne dénommée Campus Tour, menée depuis plusieurs mois par le mouvement citoyen éclairé pour sensibiliser les jeunes sur l'éveil patriotique.
Nous le disions en titre, 25 milliards de francs congolais mobilisés rien que pour le mois de juillet par la Direction générale des douanes et accises DGDA Nord Kivu, des recettes douanières qui dépassent les assignations établies par la Direction générale de cette régie financière, lesquelles s'élevaient à 22 milliards de francs congolais. Belle performance, se félicitent les responsables provinciaux de cette régie financière basée désormais à Beni, un record de 110% réalisé grâce à l'afflux des importations focalisées aux postes frontalières du Grand Nord de la province, mais également à la lutte contre la fraude douanière, déclare la DGDA. Des précisions avec vous, Jude Mister Bilanda.
Les cités frontalières de Kassindi et Nobili ainsi que les villes de Beni et Butembo sont des entités qui marquent les points dans la mobilisation des recettes. Les autres postes frontières étant sous occupation, la lutte contre la fraude instaurée est l'une des stratégies qui ont concouru à cette performance, révèle un cadre de la DGDA. Il ajoute que la rigueur et la discipline instaurées par la hiérarchie provinciale auxquelles sont soumis les agents, les opérateurs économiques et les commissaires en douane ont également contribué à réaliser ces challenges. Un autre cadre a déclaré que les circuits de fuite de recettes ont été anéantis grâce à la mise en place de cette politique de lutte contre la fraude. Ainsi, la DGDA Nord Kivu est parvenue à maximiser les recettes et à se classer parmi les 6 meilleures provinces ayant mobilisé le plus de recettes au cours du 10 mois. 23 milliards de francs congolais, ce sont les nouvelles assignations pour le mois d'août courant que s'est fixée la DGDA Nord Kivu.
Retour à Kinshasa pour parler du secteur des douanes et accises congolais qui s'est enrichi de plus de 200 nouveaux diplômés et experts formés à l'Institut supérieur des douanes, accises et logistique ISDAL. La cérémonie de collation de leurs grades académiques a été organisée ce samedi en la salle de spectacle du Collège Boboto à Kinshasa. Le directeur général de cette institution supérieure note que ces lauréats sont formés en vue de réduire les contentieux douaniers et accroître la collecte des recettes douanières. Plus de détails avec Blaise Ndongala Mayanda.
Des parents, proches et amis ont pris d'assaut la salle des spectacles du collège Boboto pour célébrer leur lauréat. Cette cérémonie de collation des grades académiques constitue une preuve suffisante que la RDC dispose désormais d'un cadre institutionnel dédié à la formation spécialisée en matière douanière. Les représentants des lauréats exhortent ses collègues à cultiver l'unité et la solidarité tout en intégrant les valeurs du travail et de la discipline afin de devenir utile à la société. Il exprime également sa gratitude envers toutes les personnes ayant contribué à la réussite de leur cursus académique. Pascal Ouaménia.
J'ai dit merci à toutes les autorités, merci à nos enseignants, à nos parents, à mes camarades pour leur courage et leur persévérance.
Pour sa part, le directeur général de l'ISDAL explique que cet établissement académique a été créé pour combler un vide dans l'appareil éducatif congolais. Professeur
L'ISDAL vise à réduire les contentieux douaniers, renforcer la collaboration publique-privée et accroître l'efficacité dans la collecte des recettes douanières.
Il exhorte par ailleurs ses diplômés à devenir des véritables acteurs dans les domaines des douanes, accises et de la logistique afin de renforcer les capacités de la RDC dans ces secteurs stratégiques.
Dans un autre registre, en Ituri, la force de la MONUSCO maintient une présence à Njina, dans les territoires de Djougou, à environ 40 km au nord de Bunia, avec des patrouilles dissuasives régulières pour rassurer les populations locales face aux menaces persistantes de groupes armés. Cette présence renforcée intervient après l'attaque du 10 août dernier contre cette localité par la milice Codeco, selon le major Ahmed Bouya, officier de l'information publique de la force de la MONUSCO, les casques bleus se sont déployés immédiatement après l'incident afin de protéger la population civile et éviter les pires. Il s'exprime au micro de Martial Papimoukeba.
Le 10 août dernier, à Djina, une attaque armée a frappé le centre de la localité. Mais grâce à la réactivité exemplaire de la MONUSCO, le pire a pu être évité. Dès les premiers coups de feu, les casques bleus des bataillons népalais, basés sur place, se sont déployés sans attendre. Leur intervention rapide, appuyée par un tir décisif bien ciblé, a forcé les assaillants de la milice Kudiko à battre en retraite, sécurisant ainsi la zone et protégeant les civils encore présents. Sur le terrain, les casques bleus ont découvert 4 civils grièvement blessés. Après avoir prodigué les premiers soins, ils ont été transférés au centre de santé de Djina. Mais face à la gravité des blessures, une évacuation médicale d'urgence a été organisée dès le lendemain. Un hélicoptère des contingents bangladais a permis de transporter les blessés vers l'hôpital de Bunia, où ils ont pu recevoir des soins spécialisés. Cette opération rapide et coordonnée a permis d'éviter un bilan humain plus lourd. Depuis, la MONUSCO maintient une présence visible dans la région, avec des patrouilles dissuasives régulières, rassurant les populations malgré une menace armée toujours présente.
Entre-temps, dans les territoires de Djougou, toujours en Ituri, plus de 82 000 personnes ont fui en un mois des atrocités des groupes armés. Plus de 250 000 autres restent privés d'assistance humanitaire, faute d'accès aux localités situées le long de la route nationale numéro 27. Ces chiffres ont été publiés vendredi par OCHA, la Coordination des Nations Unies pour les Affaires Humanitaires, qui alerte aussi sur la fermeture de plusieurs structures de santé en raison de l'insécurité. Un papier d'Isaac Remoyope rendu par Blaise Ndongala Mayanda.
La situation reste préoccupante en Ituri, particulièrement dans les territoires de Djougou. Selon OCHA, depuis le 13 juillet dernier, des affrontements entre les milices et l'armée congolaise dans les zones de santé de Nizi, Linga, Fataki et Lita ont fait 47 morts, 33 blessés et 82 800 déplacés. Ils s'abritent désormais dans les écoles, églises ou bâtiments publics. Une centaine de maisons ont été incendiées ou pillées et plus de 2 300 bêtes emportées. L'accès aux services sociaux de base est également difficile. Dans la seule zone de santé de Nizi, 9 structures médicales sur 12 sont aujourd'hui hors service à cause des pillages, incendies ou des départs de personnel soignant. De nombreux habitants qui sont restés dans les entités affectées par les conflits armés n'osent plus accéder à leurs champs par peur des embuscades, indiquent des sources locales de la société civile. À cela s'ajoute la difficulté d'acheminement de l'aide humanitaire à cause de l'insécurité vers Nizi, Iga Barrière, sur la route nationale numéro 27. Près de 256 500 personnes sont privées d'assistance. Les humanitaires lancent un appel à toutes les parties à prendre des mesures urgentes pour protéger les civils et faciliter l'accès humanitaire.
Au Nord Kivu, pendant ces temps, au moins 32 civils ont été tués dans la nuit du 14 au 15 août 2025 lors d'une nouvelle attaque attribuée aux rebelles des ADF à Melia, un village du secteur de Bapéré situé à une centaine de kilomètres de Lubero centre dans les territoires de Lubero. L'information a été confirmée par l'administrateur du territoire qui annonce les déploiements sur place des FARDC et de l'armée ougandaise UPDF pour traquer les assaillants. On écoute le colonel Alain Kiwewa au téléphone de Martial Papimoukeba.
Il y a eu incursion des terroristes et EDF. Il y a eu un carnage dans ces villages et les maisons ont été incendiées. Il y a eu plus ou moins une trentaine de personnes qui ont été tuées, des maisons incendiées. Dans le moment où je vous parle, nos forces de défense et de sécurité et la coalition UPDF sont déjà sur place afin de traquer, de neutraliser ces terroristes EDF. Il y a une équipe qui est composée des jeunes volontaires et les éléments de Croix-Rouge et qui sont descendus, qui ont accompagné également nos forces de défense et de sécurité pour voir de quelle manière ils vont inhumer d'une manière digne nos compatriotes qui ont été tués par les terroristes EDF. Le message que je lance à la population, d'être calme et de savoir dénoncer les terroristes EDF, il a un mode opératoire de guérilla.
Ce journal se poursuit dans la province du Lualaba, où plus de 400 personnes, dont 7 femmes, sont aux arrêts à Kolwezi depuis une semaine. Ces agents de la société de gardiennage dénommée Congo Astral Company, CAC en sigle, sont accusés de détenir illégalement des effets policiers et militaires. Dans un communiqué de presse publié ce vendredi, l'ONG Justicia Asbel dénonce les mauvaises conditions de détention de ces agents. Ces derniers ont été auditionnés par des OPJ, de l'auditorat militaire de garnison de Kolwezi, de l'ANR et de la police, signale Justicia Asbel. Paul Munanga nous fait le point.
Ces agents de la société de sécurité privée CAC proviennent d'autres provinces de la RDC. Ils ont été retrouvés rassemblés dans une parcelle, indique des sources à Kolwezi. Le ministre provincial de l'Intérieur du Lualaba a ordonné que ces personnes soient dépouillées des effets policiers et militaires en leur possession. Philippe Roy Kaumba explique les raisons de leur arrestation.
Ici au Lualaba, vous qui êtes de la sécurité civile, vous n'avez aucune permission de porter des boucliers anti-émeutes, des bottines de policiers et des militaires, si vous n'avez pas l'autorisation spéciale du VPM de l'Intérieur. La façon dont vous vous trouvez ici, en train d'attendre une formation ou je ne sais pas quoi, cette façon nous paraît suspecte.
Ça nous paraît très suspect.
Dans son communiqué de presse, Justicia Asbel condamne les mauvaises conditions de détention de ces personnes. Maître Timothée Mbouya, président de cette ONG de protection des droits de l'homme.
Ils y sont détenus dans des conditions inimaginables, infrahumaines, parce que ne disposant même pas d'endroit d'aisance, et ils passent nuit à la baie d'étoile et à même le sol.
Selon les documents que Justicia Asbel a consultés, les tenues et autres outils de travail de ces agents sont déjà identifiés par le ministère national de l'Intérieur. En outre, souligne cette ONG, ils ont reçu l'autorisation de fonctionnement du dit ministère. Lubumbashi, Pole Munanga, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky se rendra lundi 18 août à Washington pour rencontrer son homologue américain. Un déplacement qui intervient au lendemain du sommet tenu en Alaska entre les mêmes Donald Trump et Vladimir Poutine qui s'est conclu sans annonce concrète. Kiev a néanmoins été informé des principaux points de leurs échanges tandis que les Européens réunis dimanche 17 août au sein de la coalition des volontaires cherchent à renforcer leur soutien à l'Ukraine.
L'invité.
Notre invité est le coordonnateur national de Cornerstone Development Africa. Emmanuel Baraka nous parle du projet d'encadrement et d'octroi de bourses d'études aux jeunes diplômés d'État. Ce mercredi, 30 jeunes, dont 15 filles, ont clôturé les 12 mois de formation de la deuxième promotion de l'Académie de leadership Cornerstone. Emmanuel Baraka s'entretient avec Bernard Nyangi.
Monsieur Emmanuel Baraka, bonjour.
Bonjour.
Aujourd'hui, c'est la deuxième promotion qui sort. Quel est le sentiment que vous avez par rapport à ça?
J'ai un sentiment de satisfaction et d'action de grâce. Parce que au départ, quand nous avons commencé ce programme, on n'avait pas l'image claire de comment ça allait être. Mais actuellement, avec la deuxième promotion, nous avons l'expérience. Et nous voyons déjà que le programme est en train de produire des fruits. Un sentiment de satisfaction également parce que ça n'a pas été facile, surtout avec cette année. Au départ, on s'est demandé est-ce qu'on allait vraiment finir l'année. Mais grâce à Dieu, il a rendu ça possible.
Et vous parlez de Leadership Academy, c'est-à-dire qu'au moins, quand ils partent d'ici, ils ont un bon bagage pour devenir vraiment des leaders.
Cornerstone Leadership Academy, c'est d'abord une année préparatoire qui les prépare également pour être des serviteurs. Donc, il y a une partie formation spirituelle que nous appelons les discipolas. Et au-delà de ça, ils ont des cours d'introduction à l'université dans 3 domaines. L'ingénierat, la médecine et aussi dans les sciences sociales. Pour qu'ils sachent, nous voulons aller dans telle faculté, mais avec quelle vision? À part ça, nous les formons en anglais intense parce que nous voulons les ouvrir aux opportunités dans le monde. Actuellement, sur les 30 boursiers de l'année passée, nous avons au moins 21 qui sont à l'étranger et qui sont dans des systèmes anglophones. Et avec ça, il faut aussi un test d'anglais appelé Duolingo pour qu'il soit acceptable dans ces universités. Mais actuellement, avec l'avancée de la technologie, Sans l'informatique, un enfant qui a fini ici, même brillant, il ne peut rien. Alors, nous avons un programme aussi intense d'informatique qu'il clôture avec un test international d'ICDL. Et nous pensons, avec tout ça combiné, ils deviennent des leaders complets qui peuvent apporter un changement en RDC et dans le monde entier.
Vous avez parlé des bourses. Vous leur donnez des bourses académiques ou bien juste bourse pour cette formation, ou c'est quoi ça?
L'année préparatoire, c'est une bourse complète. Ça inclut les logements, la restauration et les études. Après l'année préparatoire, nous avons des organisations partenaires avec lesquelles nous travaillons pour qu'ils puissent accéder aux autres bourses. Et ceux qui n'accèdent pas aux bourses, ils ont un crédit pour continuer à leur cursus universitaire.
Et donc, ceux qui sont sortis aujourd'hui, ils ont bénéficié de ces bourses-là. Après eux, vous allez avoir d'autres recrutements.
Exactement. Déjà la semaine prochaine, nous lançons la candidature pour les autres boursiers qui vont venir. Nous recrutons chaque année des élèves qui finissent l'école secondaire et nous les recrutons partout en RDC. La diversité pour nous compte. Même si j'ai dit que nous avons un programme spirituel, les discipolats, c'est pas un programme chrétien. C'est plutôt un programme qui montre Jésus comme le leader modèle, qui a incarné des valeurs qui peuvent nous aider à faire face aux défis du moment. Et donc, même les musulmans, ils sont les bienvenus. Même les païens, ils sont les bienvenus.
Les conditions de recrutement.
Pour accéder à la bourse, on veut voir un minimum de 65%. Donc, on combine 4e, 5e, 6e dans l'ancien système. Ou alors, la 2e année, la 3e année et la 4e année dans le nouveau système. Et puis, on fait une moyenne. Il faudrait que l'élève obtienne la moyenne de 65% pour qu'il soit éligible. Mais au-delà de tout, il faut réussir au test d'admission. L'élève doit démontrer des potentiels qui nous font croire que l'enfant a une fondation sur laquelle nous pouvons bâtir quelque chose.
Au sortir d'ici, ceux qui ont des ambitions d'aller étudier en dehors du pays pouvaient leur accorder ces facilités.
Par exemple, cette promotion, parmi eux, il y a déjà 15 qui partent la semaine prochaine sur les 30. Nous les formons pour qu'ils soient acceptables, mais nous les connectons aussi avec ces universités qui peuvent vraiment les former, mais aussi avec l'idée qu'après la formation, ils vont revenir pour investir en RDC.
Monsieur Emmanuel Baraka, merci.
Et c'est moi qui vous remercie.
C'était notre invité Emmanuel Baraka qui s'entretenait avec Bernardin Nyangui. Et c'est ce qui met fin à cette grande édition du journal coordonné et supervisé par Jules Bilanda et mise en onde par Dieudonné Nyangasa Wanyang. Ces informations sont aussi disponibles sur toutes nos plateformes digitales et sur notre site internet www.radiocapi.net. Merci de nous avoir suivis et bon week-end chez vous.